Bonsoir et bienvenue dans Pastèque, je suis Pasturo, le past de Pastèque, je suis avec le HEC.
Mais qui c'est?
Mais c'est vous?
Ah mais oui, c'est Vizorek, bien sûr.
Il est belge, il est charmant, les vieilles dames l'adorent, mais aussi leurs filles, et il a même la cote auprès des fœtus. C'est Alex Vizorek. Pastèque, chaque semaine, c'est un live sur Twitch et une émission de radio. Lulu attend tous vos messages, vos questions. Bonjour Lulu.
Bonjour.
Voilà, et au programme aujourd'hui, on va faire notre top 3 des actus de la semaine. Il y aura notre revue de presse, la meilleure revue de presse selon ma mère.
La mythique.
Et nous allons recevoir la star parmi les stars de YouTube
c'est
en
vrai.
France.
C'est vrai.
C'est Pierre Cross.
Ouais.
Voilà, mais tout de suite, on commence avec le top.
L'actu.
Le
top de l'actu.
Tanguy Pastèque Pasturo et Alex Pastèque Vizorek sur France Inter, c'est Pastèque.
Le top de l'actu et on commence par une actu de Tanguy Pasturo.
Oui, absolument, qui s'intitule « Autriche, une chirurgienne condamnée pour avoir amputé la mauvaise jambe d'un patient ». Alors, c'est la source, c'est le site de BFM TV. Oui. Et c'est là qu'on voit que le concept d'erreur humaine est relatif par rapport au métier que vous pratiquez. Hein, nous, une erreur humaine, par exemple, c'est une mauvaise blague. C'est vraiment ce qu'on peut faire de pire. Mais bon, pour moi,
c'est... Mort
non. Mais pour un chirurgien, une erreur, c'est quand même se tromper de jambe quand dans la main, on a une scie. Voilà. Et l'opération, donc je vous raconte un peu l'histoire. L'opération s'est déroulée en mai dernier, donc en Autriche, lors de la quatrième vague de Covid, parce que j'ai essayé de compter en vagues, hein, parce qu'il y en a plus que d'années maintenant. Le patient avait alors 82 ans, et donc on lui a amputé la mauvaise jambe, et au moment de descendre de son lit, surprise, hein, il pensait avoir une jambe valide, mais il lui restait plus que la jambe déjà foutue, donc il a fallu retirer également, donc en fait, il est tombé.
Hein. On peut parler d'une mauvaise opération.
Alors, il s'est beaucoup plaint, parce que vous savez comment sont les culs de jatte, toujours voir le côté négatif des choses, alors que sans jambe, on peut se glisser plus facilement dans un kayak, par exemple.
Et
ça, on n'y pense pas assez.
Voilà, et 82 ans, c'est une belle activité.
C'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé.
Et bien voilà.
C'est pour ça qu'il y a une plus value, Tanguy Pasturo.
Voilà, exactement. Moi, j'apprends aux gens comment vivre mieux avec un handicap.
Et donc, elle a été condamnée. Enfin, le médecin a été condamné.
Oui, mais bon, elle dit que c'est une erreur. Mais elle a été condamnée quasiment à rien. Hein. Un dédommagement de 5000 euros. Qu'elle a dû payer à la veuve.
Non, ça vaut pas une
bien
jambe.
Sûr.
Ça vaut pas
alors, depuis, le patient de 82 ans est mort. Okay. Voilà. Alors, avantage, on a pu prendre un cercueil plus petit. Hein. Sa veuve l'a eu à moins 50%. Écoutez, on essaie de trouver des avantages dans cette histoire. Mais je trouve ça à la fois horrible, bien sûr. En même temps, voilà, la personne n'avait pas non plus 23 ans. Donc, je ne dis pas qu'il faut couper les jambes des gens de 82 ans.
Vous enlevez une jambe.
Non. Je pense à Jacques Séguéla, notamment, qui a droit à ses deux jambes. Sinon, comment irait-il à CNews chez Pascal Pro? Ce serait plus compliqué en petite voiturette, etc.
On le poserait.
Ouais. C'est un peu ce qui se passe déjà,
oui,
je crois.
Pense.
On le pose au plein soleil, et puis après on vient le récupérer. Ouais. Mais voyez, c'est compliqué en fait cette histoire parce que ça montre bien à quel point la responsabilité des chirurgiens est immense, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire, quand on fait une erreur en chirurgie, c'est tout de suite catastrophique.
Mais c'est un stagiaire qui avait mis la croix sur la mauvaise jambe, parce que
c'est ça. Au début, c'est la jambe qui a été mal notée.
Eh ben oui.
Mais c'est la chirurgienne elle-même qui avait mis cette croix. Parce qu'en Autriche, en fait, ils assurent en fait le suivi du produit du début à la fin.
Ça me semble.
Voilà. Nous, on a des stagiaires.
Oui.
Parce qu'à un moment, il faut faire baisser les chiffres du chômage. Mais eux, non. Voilà.
Eh ben, écoutez, merci
voilà,
pour cette info.
Cette actu, comment dire, rafraîchissante. Hein.
Alors, moi, j'ai de la Lorraine.
J'ai de la Lorraine.
Non, mais on n'est pas loin.
Ah bon.
Un France Bleu qui nous annonce qu'un collectif de collégiens lorrains a exigé d'avoir de la raclette.
Voilà.
À la cantine.
J'ai vu ce truc.
Mais ça, c'est quand même, là, je me dis que les Français se battent pour les produits locaux et si jeunes, parce que c'est bien beau de se battre pour l'environnement, mais quand même. Donc, ils ont dit qu'ils voulaient de la raclette, que c'était un scandale qu'il n'y en ait pas à la cantine.
C'est vrai.
Ils ont créé le RERC, Rire et Raclette Chantant. Et ils ont demandé qu'il y ait l'organisation d'au moins, c'est pas énorme comme revendication, c'est le début du syndicalisme, hein, c'est ça, une raclette par an. Et sinon, ils menaçaient de chanter cette chanson qu'ils ont écrite, dont je n'ai pas le j'ai les paroles, mais pas le refrain, donc je vais créer. En chaussettes ou en claquettes, j'aime la raclette. Ah oui. Bon, pourquoi pas.
Il manque un petit sens du rythme.
La
mais...
fête,
oui.
J'aime la raclette.
Bon,
il y a vraiment une recrudescence de j'aime la raclette pour bien que ça rentre dans la tête des gens.
C'est le principe du slogan.
Et figurez-vous que ça s'est bien terminé parce que la direction du collège a dit que s'ils chantaient cette chanson dans la cour de récréation, ils auraient de la raclette. Et c'est chose faite.
C'est incroyable.
13 décembre, raclette en Lorraine pour ces collégiens. Donc si vous voulez manger des choses en particulier, amis collégiens, rebellez-vous parce que C'est là qu'on voit que quand même se rebeller. On est dans le pays de la Révolution. Hein, 1789, tout ça. Et ben paf, si on veut une raclette, on y va. Deuxième info, Tanguy Pastureau.
Alors, ma deuxième info s'appelle Baby Boom exceptionnel dans un village du sud-est sartois. Alors, c'est West France qui nous dit ça. Ça se passe à Tresson dans la Sarthe, hein, le royaume de François Fillon et son épouse Pénélope, avec laquelle il travaille par télépathie. Et dans ce village de 475 habitants, il y a déjà eu 11 naissances. Alors, ce qui est un taux de fécondité digne de la Jamaïque quand, lors de la soirée reggaeton, personne n'avait prévu de préservatif. Mais alors, pourquoi les gens font-ils des bébés à Tresson? Eh ben déjà parce qu'on s'y ennuie, hein,
oui,
ça, petit village. Bon voilà, mais comme partout à la campagne, alors je ne conseille à personne la campagne. Hein, voilà, y compris de la traverser, aller donc de ville en ville en avion, hein, surtout. Mais surtout,
alors que vous êtes plus écolo.
Voilà, voilà. Mais surtout parce que ce village, depuis les confinements, en fait, c'est rempli de jeunes couples, quoi, des néo-ruraux, vous savez, en érection 24 heures sur 24 que les bus utilisent pour se poser.
C'est la une de l'Obs.
Voilà,
ils
c'est la une de l'Obs.
Ils ont quitté la ville.
Tous. Et donc 11 bébés. À Tresson, sont nés de ces soirées orgiaques. La Sarthe, c'est très très chaud, hein. C'est devenu le nouveau Mykonos. Alors, les bébés s'appellent donc Théo, Camélia, Gemma, Mathis, Layan, Taylor, Kalia, Abel, Noah, Lizelle et Cyril. Alors, bien sûr, le petit Cyril, qui est le seul à ne pas porter de prénom d'enfant de Bobo, a été exclu du village.
Hein,
voilà, on lui a jeté des cailloux, bien sûr, et des pierres, et on lui a coupé les jambes.
Ah.
Non,
c'est
bien sûr,
c'est
il va bien. Voilà, c'est intéressant de voir que les néo-ruraux, enfin voilà, les gens qui viennent des villes en fait, ce sont des jeunes couples qui évidemment n'ont pas encore d'enfants et qui, boostés par l'air de la campagne, en font des tonnes. Voilà, c'est amusant. Et il y a plein de villages comme ça en France aujourd'hui. Et Jean-Pierre Pernaut, je pense à lui, doit être aux anges, qui se repeuplent.
Et ça c'est bien, ça c'est bien.
Voilà, et du coup ça va faire des villes. Et puis, au bout d'un moment, les gens ils en partiront à nouveau en disant « Oh, c'est devenu trop grand !» Voilà, c'est un peu le principe.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie à Tresson ? Allons à Paris,
voilà.
C'est plus calme.
Voilà, Paris perd un nombre d'habitants chaque année complètement délirant.
Oui.
Merci Anne Hidalgo.
C'est tant mieux.
Bon, alors ma troisième info...
Je n'osais vous la demander.
Eh bien, alors c'est une info un peu plus tragique et internationale. Les Ukrainiens inquiets face à l'offensive russe qui se prépare. J'ai lu ça dans le Figaro, puisque vous savez qu'on parle beaucoup du Covid, mais on oublie qu'il y a une méthode plus ancienne que ça pour décimer une population. La guerre. Hein. La guerre, c'est simple. On tire sur un autre que soi, ou alors c'est qu'on est très con. Hein, voilà, juste parce qu'il est différent. Et là, la Russie est quand même en train d'amasser sur la frontière ukrainienne des troupes, des chars, ce que les experts appellent des mouvements inhabituels. Hein. C'est un peu comme si Edouard Balladur dansait le zouk. Vous voyez, là, ce sera un mouvement inhabituel. Alors, en 2014, la Russie a déjà annexé la Crimée. Et depuis, donc, l'Ukraine se bat contre des troupes pro-russes à l'intérieur du pays. Il y a déjà eu 13 000 morts, soit autant qu'il y en aurait dans un stade de France avec Céline Dion s'il avait vraiment décidé de pousser la voix. Les États-Unis, eux, haussent le ton. Joe Biden a fait « Eh oh, hein, ça va, c'est l'heure de question pour un champion. » Bon, voilà, battez-vous plus tard. Et le monde entier s'inquiète. Voilà. Alors, moi, j'ai juste envie de dire qu'on a besoin de tout en ce moment. De tout, sauf d'une bonne guerre.
Oui.
Hein, parce que c'est le truc qui nous manque pas du tout. L'année est déjà assez difficile. Essayons de nous respecter, essayons de nous aimer, y compris à la frontière
russo-ukrainienne. Vous êtes un diplomate.
Mais non, mais
je vais vous envoyer chez Poutine.
J'ai du mal à comprendre tout ça.
Alors moi, j'ai une dernière info plus légère, mais surtout pour faire la transition avec notre invité, Pierre Cross, qui nous vient avec un livre, 40 jeux à faire en soirée. Livre qu'il aurait pu titrer 40 jeux à boire, parce que c'est un peu l'idée, on lui en parlera.
À faire en soirée en se protégeant. Hein,
bien sûr. Tempête de neige, les clients du pub le plus haut de Grande-Bretagne, bloqués pendant 3 jours.
Ah.
En fait, les clients participaient à une soirée avec un groupe reprenant des tubes d'Oasis, donc Oasis Beast, quoi. Voilà, le groupe anglais. Et donc, ils ont fait la fête là. Et puis, il y a eu un problème de câblage sur la route. La tempête a entraîné la chute d'une ligne électrique qui a coupé le principal accès routier de ce pub situé à 528 mètres d'altitude.
Ils sont restés coincés là-dedans.
3 jours dans un pub.
Oh là là.
Donc voilà, s'ils avaient eu le livre de notre invité...
Ils auraient su quoi faire.
Eh bien, ils auraient su quoi faire parce que c'est 40 jeux à faire en soirée.
Mais attendez, là, ce sont quoi, des Anglais?
Oui, ce sont des Anglais.
Ah, ils ont su quoi faire.
Ça ne fait pas trop de soucis. Moi aussi, j'aurais su quoi faire à ce niveau-là.
C'est peut-être une des questions que je vais lui poser à notre invité, c'est pourquoi faire des jeux alors qu'on pourrait boire directement.
Mais parce que, 3 jours à boire,
évidemment,
il faut faire des jeux.
Oui, il faut rappeler ça, oui.
Parce que vous buvez, vous?
C'est pour ça.
Vous faites de la fiesta de temps en
temps. Oui, des fois.
La nouba, quoi.
La nouba.
On s'éclate du côté de chez Lulu.
avant de retrouver notre invité Pierre Cross qui vient nous parler de son livre 40 jeux à faire en soirée, eh bien passons un peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ah, on écoute Hervé avec Permis de construire.
J'ai l'impression que vous voyez très bien qui c'est.
Oui, Hervé.
Hervé, il y en a qu'un, c'est le meilleur. C'est le meilleur.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette truie. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi je fais comme si c'était rien, c'est bien. C'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette truie. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, j'fais juste un état des lieux.
Pasturo, Visorek, sur France Inter.
Eh bien Tanguy, nous ne sommes plus trois avec Lulu, nous sommes quatre avec notre invité. Mais qui est-il ?
Eh bien c'est la star parmi les stars de YouTube France, c'est Pierre Cross. Pierre Cross, bonjour.
Bonjour.
Alors vous savez, Alex Visorek va vous sortir la question qui vous sera à chaque fois. S'il devait vous présenter en fait à sa mère qui est ni sur Internet, ni sur Twitch, etc., ni sur YouTube, comment ferait-il ?
Comment j'explique qui vous êtes ?
Je suis un ancien collègue d'Alex.
C'est vrai, c'est vrai, vous avez commencé par être humoriste de scène.
Ouais, exactement.
Et vous avez fait une vidéo sur YouTube pour faire de la promo.
Exactement. Au tout début, c'était le but, c'était pas mettre un extrait de mon spectacle parce que il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Et du coup, je me suis dit comment je peux faire un concept qui ressemble à mon spectacle mais qui est pas mon spectacle. Et j'ai fait rompre à l'aide d'un PowerPoint.
Parce qu'à l'époque, votre truc, c'était le PowerPoint.
De rompre avec
PowerPoint. Voilà, voilà. Non, mais commenter des PowerPoints, quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Et donc, vous pensiez faire, voilà, juste un petit peu faire circuler la vidéo pour annoncer ce spectacle. Et ça a fait le buzz, comme on
ça
dit.
Ça a fait, ouais, pas mal de vues à l'époque. Moi, j'avais très peu d'abonnés, de gens qui me suivaient. Et ça a fait 1 million de vues en un mois. Donc,
Vous, au départ, vous n'étiez pas du tout sur Internet. Au moment où vous postez cette vidéo, c'est un truc que vous pratiquez déjà ou pas spécialement?
Ouais, je connaissais. Et surtout, je travaillais chez Dailymotion. Donc, je connaissais l'environnement. Après, ma tête est,
Non, vous n'étiez pas parmi les personnalités d'Internet de l'époque. Quoi.
On est en quelle année là ?
Là,
non, non. 2008. Ça va, Alex ? C'est un début d'AVC. Hein.
On est en quelle année quand vous faites cette vidéo ?
On est en 2013, le 31 janvier.
Donc, ça fait presque 10 ans.
Ouais.
Enfin, 8, allez, on va dire. Et donc, en 8 ans, vous étiez artiste scénique, on va dire, qui regardait un petit peu ce qui se passait sur le net. Ouais. Et maintenant, vous êtes une des grandes stars d'Internet en France. 4 millions, Ouais, il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup au-dessus de vous.
Ah, si, quand même. Ouais. Après, si on compte David Guetta, etc., il y en a pas mal. Non. Après, les youtubeurs, c'est vrai que je pense qu'on est une vingtaine, trentaine, 20, 25 à avoir ce nombre d'abonnés.
Moi, quand je suis allé chez vous, parce que vous m'aviez piégé sur une
des vidéos. C'est vrai, je me rappelle très bien.
J'étais assez surpris parce qu'il y avait deux personnes qui bossaient pour vous. C'était très bien organisé. Ouais. Je me suis dit, bah, déjà, ça se voit que c'est professionnel parce que pour sortir 6 minutes nouvelles tous les jours, bah, c'est énorme. De travail, les gens ne se rendent parfois pas compte de ça, mais aujourd'hui vous êtes à la tête d'une équipe de 20 personnes.
Ouais, une bonne vingtaine, sans compter les talents avec qui on travaille, mais les monteurs, cadreurs, ceux qui préparent les vidéos, etc. Donc, ouais, une bonne vingtaine.
Comment on parvient à rester le gamin qui s'amuse sur internet et un peu le chef d'entreprise?
Bah, on embauche des gens. Pour pas travailler. C'est très facile.
C'est une bonne
réponse. C'est très facile.
Et donc là, aujourd'hui, combien de vidéos vous sortez? À quel rythme? Comment? Vous faites bosser aussi les autres?
Ouais. En gros, moi, je fais une vidéo par semaine sur ma chaîne et j'ai une chaîne secondaire où je mets deux vidéos un peu plus faciles à faire par semaine. Et en gros, comme on travaille avec d'autres créateurs dans la maison dans laquelle on travaille, je tourne presque tous les jours. Il y a peut-être une vidéo par jour, au final, où je suis dedans, parmi tous les contenus qu'on fait, quoi.
Et ces vidéos-là font en moyenne?
Allez, je dirais en moyenne, tout compris de tout le monde, 1 million de vues en général.
C'est à peu près l'audience de Par Jupiter, par exemple. Pour vous dire l'audience qui est celle de YouTube. La télé,
bah c'est énorme, quoi.
Les médias un peu traditionnels, du coup, ne vous intéressent que assez peu.
Oh, j'aime bien France Inter, moi, vous savez.
Ah, vous êtes parfait.
Il n'y a pas Danse avec les stars qui est venu vous chercher, parce que il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui qui cherchent à rajeunir leur audience en chercher des stars du net.
En plus, je sais pas avec quelle star j'aurais dansé, donc.
Je propose qu'on écoute un extrait de Pierre Cross sur YouTube, et après, vous nous expliquerez après de quoi il s'agit.
Bonjour à toutes.
Bonjour
à tous.
Bonjour.
Nous sommes dans une nouvelle édition de Qui seront les meilleurs. On a fait couple, on a fait frère et sœur. Et là, nous faisons frère et sœur, mais cette fois, la particularité, c'est que vous êtes
jumeaux
et jumelles. Exactement. Donc, il y a des vrais jumeaux, il y a des faux jumeaux et il y a des vraies jumelles surtout. Donc, vous allez avoir, comme d'habitude, un mini-jeu pour éliminer une paire de frères et sœurs ou sœurs et nous irons jusqu'à la finale. On va donc passer tout de suite au premier jeu. Préparez vos téléphones parce que le premier jeu, c'est celui qu'on avait fait sur un qui sera le meilleur couple. Donc, vous allez devoir faire un mot le plus long possible avec votre frère ou votre sœur.
Oh putain.
Donc là, vous animez un jeu, mais comme ça pourrait être un jeu sur une chaîne de télévision.
Ouais, c'est vrai. C'est la réflexion que je me fais de temps en temps, mais
c'est un appel que vous faites.
Parce qu'on a l'impression que ça vous tente pas du tout, quoi, la télé, au final. Pas plus que ça, quoi.
Non, parce qu'en général, ce genre de concept en télé, c'est il faut que ça dure une saison, et moi, je préfère le faire une fois, deux fois, si j'aime bien, si ça continue à bien marcher, je continue, mais. Sur ma chaîne, en général, je teste des concepts et si ça marche pas, j'arrête. Alors qu'en télé, c'est beaucoup plus engageant.
Vous avez cette idée en plus de maîtriser vraiment du début à la fin ce que vous faites.
En plus,
voilà.
Ouais.
Lulu, des retours des pastèques.
Oui. Alors, on a des demandes. Les gens veulent savoir quand est-ce que tu reviens sur Twitch.
Bonne question. Je sais pas. Je suis en train d'y penser, mais c'est vrai qu'on a un peu accéléré la production depuis quelques mois. On fait beaucoup de tournages. Mais j'y repense évidemment et surtout chez moi, j'ai adoré faire des lives solo pendant le confinement.
À un moment, vous faisiez ça tous les matins, je crois.
Ouais, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec ces gens.
Est-ce que tu vas revenir sur scène?
Sur scène, c'est peut-être moins direct parce que autant Twitch, il suffit de rappuyer sur un bouton pour rallumer. Sur scène, j'aimerais bien, mais à plusieurs, je pense. Peut-être une pièce de théâtre un peu.
Déjanté.
Un peu, un peu décalé, mais un truc très absurde.
Je rappelle que vous êtes là pour un livre qui s'appelle 40 jeux à faire en soirée. Pourquoi faire des jeux alors qu'on peut boire directement?
Mais c'est pour faire des pauses en fait. C'est pour justifier les pauses.
Et donc chaque fois, il y a des jeux par page. Vous pouvez en faire à deux, à trois. Parfois, ça demande un peu plus de matériel.
Ouais.
Il y a 39 jeux.
Voilà.
Vous avez eu l'honnêteté de dire que c'était plus joli 40 sur la couverture, mais 39.
Exactement. Ouais.
Mais par contre, il y a une intro qui est très drôle. Donc c'est pas comme si vous étiez arnaqué d'un jeu.
C'est ce qu'on se dit avec l'éditeur, en fait, on a reconté, il y a que 39, faut trouver des vannes. Trouve des vannes pour justifier parce que sinon c'est de l'arnaque.
First, un très bon cadeau, je pense, pour les fêtes de fin d'année. 40 jeux de soirée avec Pierre Cross. Et nous, on aime les quiz.
Ah oui, on a des quiz.
Ah, okay. Et ça, c'est Tanguy.
premier quiz préparé par notre collaborateur Hugo Combes s'appelle Pierre Cross, CrossFit ou les deux. Puisque Pierre Cross, vous le savez, on est une émission de France Inter, d'accord, donc on a environ 7 ans de retard sur les tendances.
Hein.
Et donc les nouveaux
Hugo,
concepts, ou les nouvelles personnalités, pour peu qu'ils aient un peu le même nom, eh bien on les confond.
Eh ben, ça me va.
Et vous, Pierre Cross, on vous confond souvent avec le CrossFit, voilà, c'est comme ça.
Qui donc
on
va vous donner... physique, hein, qui est
très physique.
Très physique.
Très physique.
Trop physique.
Trop physique. Alors on va vous donner une liste de choses ou de situations et vous allez nous dire si elles sont plutôt CrossFit ou plutôt Pierre Cross.
Okay.
Attention, il y a des pièges ou si elles sont
le
les
chat,
deux.
Le chat peut sûr répondre aussi. Oui, hein, pour donner voilà,
c'est là attention qu'il est fort. Tout de suite, il ouvre le jeu avec le chat.
Bien sûr.
Et nous, ça fait un mois.
Parce que je sais qu'ils ne me feront pas de cadeau là-dessus. Ouais.
Attention, si je vous dis un corps de rêve, Pierre Cross ou CrossFit ?
CrossFit.
CrossFit, bravo.
Oh, vous auriez dit les deux qu'on aurait accepté.
Non. Ne pas manger.
Ne pas manger du fromage.
Ne pas manger du fromage, oui.
Bah les deux. Moi, je mange pas froid.
Voilà.
Et le CrossFit, je pense que pour en faire et pour être bon, il vaut mieux pas manger
voilà
de fromage.
Donc surtout les deux, mais quand même, voilà, surtout le CrossFit, mais quand même les deux, puisque pour les ignares qui ne sauraient pas, vous n'aimez pas le fromage, sauf s'il est
fondu.
Fondu. Attention, ne pas boire de l'alcool. CrossFit ou Pierre Cross ?
CrossFit.
CrossFit.
Il a réfléchi ?
Sinon, c'est vrai, parce que l'inversion, les phrases en négatif,
je
attention, Fred Van Long.
Ah bah les deux, il fait un peu de CrossFit et voilà.
Les deux, donc c'est votre ami associé, ouais, qui est, nous dit Hugo, plutôt bien gaulé. Benjamin Verrecchia.
Benjamin, oui, Verrecchia, oui. Plus Pierre Cross parce que ouais, CrossFit il en fait pas trop.
Voilà, c'est un autre ami associé qui a notamment une chaîne YouTube de recettes pas très très healthy.
Ouais, exactement. Ouais.
Pierre Cross, donc vous êtes directeur artistique de la Maison Grise. Expliquez-nous, oui, ce que c'est la Maison Grise.
La Maison Grise.
Maison Grise, c'est une maison qu'on a prise en 2018 pour se réunir et travailler tous ensemble.
Vous
et c'est une maison qui est grise.
Acheter un bâtiment.
Ouais.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dedans ? Vous créez du flux, du contenu internet.
Exactement. On s'est dit, parce qu'en fait, concrètement, ça existe déjà, cette idée-là. Ça s'appelle des networks qui travaillent avec des gros youtubeurs en général et qui rassemblent des gros youtubeurs. Et moi, je suis toujours resté indépendant. J'ai jamais signé dans un network. Et je me suis dit, bon, je vais créer mon équipe à moi.
Ce que vous appelez un label.
Ouais, moi, j'aime bien la référence au label de musique. Et en gros, on va travailler ensemble et on internalise tout. Donc, on a nos commerciaux, nos monteurs, nos cadreurs, tout. Et on dépend de personne.
Donc, si je suis un jeune, c'est une fiction.
Ouais, bien sûr. Il faut vraiment s'imaginer le truc.
Regardez, tous nos stagiaires de troisième qui sont là, qui vous connaissez tous, j'ai fait un sondage.
D'accord.
100%. Imaginons, il y en a un parmi eux qui est youtubeur débutant. Comment vous faites? Comment vous les sélectionnez? Est-ce que vous essayez de repérer justement les nouveaux talents pour les faire venir dans votre écurie ou comment ça marche?
Ouais, en général, on les repère déjà de ce qu'ils font. Mm-hmm. Et après, en ce moment, on les fait participer à un truc qu'on appelle les Olympiades. C'est une sorte de Squid Game où on tue pas les gens. Il y a 10 participants et chaque épisode, il y a quelqu'un qui est éliminé.
Et là, aujourd'hui, votre écurie, elle est composée de combien de personnes ?
Là, en ce moment, 5. 5 okay talents. 5 créateurs. Et après, on a pas mal de gens qui gravitent autour de nous, qui font de la musique, etc. etc. Donc, on a d'autres talents avec qui on travaille, mais qui sont vraiment chez nous et qui viennent tous les jours au bureau, ouais, 4-5, entre 4 et 5.
Et vous aviez imaginé ça quand vous faisiez vos études, que ce serait vraiment vous qui alliez vous donner du travail, et dans un milieu qui, à l'époque, était totalement inconnu?
Ouais, bah non, ça c'était impossible. Quand j'ai fait mes études de commerce, Dailymotion et YouTube se lançaient à peine, donc même Rémi Gaillard, qui est la première star française à vivre de ça, à avoir pu dégager des revenus avec Cyprien, je pense qu'il gagnait pas encore sa vie, quoi. Il faisait des vues, mais il n'y avait pas encore de revenus, il n'y avait pas encore de partenariat. Les premières vidéos, il faisait ça pour le plaisir. C'était et moi, je regardais ça en me disant...
C'était délirant, Rémi Gaillard. Ouais, ça allait tellement loin, tellement loin.
D'ailleurs, il avait fait une partie de Mario Kart qui était très célèbre.
C'est
et
vrai.
Vous aussi, vous en avez fait une.
Bon,
je crois
vrai,
qu'on
ouais,
a
ouais
un petit son
oui,
éventuellement à écouter.
Bien le bonjour messieurs dames, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Nous sommes chez Chris, les opticiens. Ils m'ont contacté et m'ont dit qu'est-ce que tu pourrais faire dans notre usine pour montrer qu'on produit nos verres ici en France, parce qu'ils produisent 1 300 000 verres chaque année. Ils m'ont dit voilà, on te laisse l'usine pour toi une matinée, qu'est-ce que t'en fais? Du coup moi j'ai essayé de réfléchir à une idée, parce que j'ai déjà fait un cache-cache dans un Conforama, au musée Grévin, j'ai déjà fait les Jeux Olympiques dans un Décathlon. Je me suis dit il faudrait essayer de faire quelque chose de plus stylé aujourd'hui. J'ai donc proposé à des amis de venir, j'ai loué des petits kartings, et aujourd'hui on va faire une partie partie de Mario Kart ballon.
Donc là, ça représente assez bien votre façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui vous contacte, qui vous dit mets-nous en avant, mais fais ce que tu veux, délire. Ouais. Et vous, derrière, vous créez ça et c'est totalement incongru. Il y a de la vraie créativité dans cette façon de faire de la publicité.
Bah ouais, et ça, c'est un vrai truc que moi, j'adorais, enfin, quand j'étais petit et que je réfléchissais, pas petit, mais on va dire au lycée, etc. Je me disais, j'aimerais être publicitaire ou ce genre de mec qui trouve des idées de pub. Je trouvais ça.
Jacques Séguéla serait youtubeur aujourd'hui.
Peut-être, peut-être. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre métier. En fait, on reçoit des demandes de marques et ça. Alors, des fois, la marque arrive avec son concept, mais ça correspond rarement parfaitement à ce que nous, on veut. Donc, il y a un vrai travail de réfléchir pour une marque, trouver comment on fait pour communiquer exactement sur les points qu'elle a envie de développer, etc. Donc, ça devient un vrai travail un peu commercial sur ce point-là. Mais moi, j'adore. Donc,
Non, bien sûr.
Merci à vous, Pierre Cros.
Merci.
Et bonne année déjà. On est en décembre.
Allez,
je vous le souhaite. On vous abandonne, Pierre Cros, parce que après le deuxième disque, il y a la mythique revue de presse, il y a du Paris Match, il y a de l'Obs. J'ai vu Public traîner. Mais avant ça, Tanguy Pastureau, qu'est-ce qu'on va écouter?
On écoute les Falls, ce groupe, avec Wake Me Up.
Très bon choix. êtes sur France Inter dans Pastèque, abonnez-vous à notre chaîne Twitch pour nous suivre en direct le jeudi à 13h. Et comme ça, vous connaîtrez l'entièreté de cette revue de presse que nous commençons.
France Inter le samedi soir, Pastureau Vizorek, c'est Pastèque.
C'est parti, Tanguy Pastureau. Et oui, tradition oblige, vous ouvrez avec Paris Match.
Avec Paris Match, bien sûr, et malheureusement...
Chargé le Paris Match cette semaine.
Alors, très chargé, puisque la couverture est dédiée à Nicolas Hulot.
C'est un homme qui va pas bien.
Voilà, alors Nicolas Hulot, eh bien, on le voit à Saint-Lunaire, sur la côte bretonne, chez lui, en fait, dans les Côtes-d'Armor, le 30 novembre, 6 jours après avoir annoncé son retrait définitif de la vie publique. Il est, eh bien, dans les roches. Seul, en doudoune à capuche. Alors, c'est très important qu'il soit à ce moment-là dans les roches seul, puisque cet accoutrement n'est pas digne, bien sûr. Hein. Jamais de doudoune, n'oubliez pas, même quand avant on a eu des problèmes. Alors, bien sûr, il y a d'autres photos. On le voit notamment, eh bien, une photo d'archive avec Patrick Poivre d'Arvor. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans le milieu de l'agression sexuelle, un strike. Hein, voilà.
Un win-win.
Un win-win. Voilà. Alors, malheureusement.
Alors, je crois qu'il est dit dans l'article qu'il comptait les points.
Et ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. PPDA et Nicolas Hulot.
Regardez la tête de Lulu.
Voilà, PPDA et Nicolas Hulot nous dit Paris Match. Eh bien, en soirée, comptez les points, un système de points pour chaque femme conquise dans le public, tant pour une serveuse, tant pour une hôtesse de l'air, parce que bien sûr, il y avait des points différents selon le statut social de chacune. Une ministre, c'était 120 points, par exemple. Hein, voilà. En fait, c'est un système. Non, pour vous expliquer.
Non, mais quand on sait que quand même. Il attaquait beaucoup les filles de président.
Alors, c'était un système de points, comme l'Eurovision, mais avec la langue. Donc, du coup, ça chantait moins.
Mais quelle horreur.
C'est affreux, affreux. Et alors, il y a quelqu'un qui avait dit à une femme qui était dans l'équipe de Nicolas Hulot, pardon, désolé, mais tu vas pas pouvoir faire partie de l'équipe de campagne du candidat, tu l'excites trop. Hein, on lui avait dit, donc on avait été obligé d'exfiltrer cette femme. Voilà, enfin, si on doit virer après tous les gens qui nous excitent, moi, Alex Vizorek, vous pouvez partir, parce que, bon, je dois avouer quand même que vous avez un petit corps.
J'ai l'impression que c'est une forme de compliment.
Ça m'a touché. Ou alors de problème de ma part. Hein.
Alors, comme vous avez fait de la grande littérature, je peux me permettre d'aller dans Public.
Allez-y.
Info exclue, nous dit Public. Emmanuel Macron, grosse douche froide à l'Élysée. Et là, on se dit...
Problème de canalisation.
Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire. Ah. C'est exactement ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Vendredi 19 novembre. Parce qu'on pense qu'ils ont des vies faciles, ces gens-là. Emmanuel Macron aspirait à un plaisir simple. Une douche bien brûlante se donner du courage avant d'aller se peler dans le Nord où il était attendu pour un marathon de 4 jours. Eh bien, nous dit, parce qu'ils ont un petit peu un sens du jeu de mots dans Public, l'enthousiasme présidentiel a été douché. Vous l'avez. Lorsque le chef de l'État a allumé son robinet, c'est un jet glacial qui lui a rafraîchi les idées et le reste. Là, je vous lis comme c'est dans Public.
C'est honteux.
Mon cher ami. Oui, mais vous vous rendez pas compte, vous. Et cet homme veut postuler pour rester à l'Élysée. Je ne comprends pas. Parce que, voilà, la chaufferie de l'Élysée avait sauté. Ce qui a inspiré un autre bon jeu de mots à nos amis de Public. Les problèmes immobiliers, ça a de quoi vous rincer.
Ils s'éclatent, hein, les
deux. C'est-à-dire que c'est un dossier qui a été très peu traité dans les autres médias. Oui. Alors là, je peux vous dire, ils y ont mis du truc. Macron était furax. Il y a eu une discussion bouillante. Excusez-moi. Vous voulez de l'info, vous en avez. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre?
Alors, j'ai Gala avec en couverture les pernaux Marquet. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est un article sur François Mitterrand. Puisque vous savez qu'il a eu beaucoup de liaisons. Hein. Là, on est sur sa 202e liaison connue. Hein, il a semé sa petite graine dans toute la France. Silence, ça pousse, on l'appelle. Hein.
Et alors...
Et alors, François Mitterrand, le saviez-vous, sa première passion, c'était Catherine Langer. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'était la speakerine star de la télé à l'époque, parce que avant, à la télé, c'est une dame qui annonçait les programmes qui allaient suivre. Voilà, alors, il faut savoir que Catherine Langer s'appelait à la base Marie-Louise Terrasse, qui est un nom à la Dupont de Ligonnès. Hein. Il a 22 ans, François Mitterrand, et il tombe amoureux de Catherine Langer. Il lui écrit des tas de lettres, et nous dit Gala, il va dès lors la poursuivre d'une ardeur sans limite, dont aujourd'hui on appelle ça un comportement à problème, mais avant c'était certainement très romantique hein, d'agir comme ça. Alors, il lui poste des photos de neige sur laquelle il a tracé des « je t'aime ». Donc ça, c'est très inquiétant.
C'est
beau. Surtout, voilà, il lui écrit « pourvu que tu ne sois pas grippé, si j'étais là, je te guérirais avec mes baisers ». Alors, ce qui est tout le contraire des gestes barrières.
Hein, parce que, enfin,
si elle était grippée, on la met dans une pièce et on lui dit « écoute, je reviens te voir dans 4 jours, avec un grog, et terminé, tu me refiles pas tes miasmes ».
Mais qu'il avait le droit, quand même.
À l'époque, on avait le droit de se refiler la grippe et de se refiler les virus.
Semble-t-il.
Et là, vraiment, c'est une période qui a changé. Alors, très rapidement, dans Closer, Éric Zemmour a essayé de l'interdire, mais ça n'a pas marché.
C'était un échec.
Éric Zemmour va être papa en 2022. Alors, si tout va bien entendu, mais l'événement est prévu pour le mois de mai 2022, au lendemain du deuxième tour de la présidentielle. Et j'espère donc qu'il ne va pas être élu.
Ça va lui faire un gros mois, quand même.
Non, j'espère qu'il ne va pas être élu, parce qu'il n'a pas le temps de gérer, quoi. Je veux dire, on ne peut pas avoir un bébé qui crie toute la nuit, etc., et être frais le matin. Il va appuyer sur le bouton nucléaire en pensant que c'est le bouton de l'ascenseur. Ça va être un enfer, cette histoire. Donc, ne votez surtout pas Éric Zemmour, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Il n'est pas prêt. S'il est papa, il ne peut pas être président en même temps.
Il n'est pas prêt.
Non, il n'est pas prêt.
Évidemment.
Voilà, joli.
Et bien sûr. Alors, allez. L'Express.
Alors, dans L'Express, je vous ai trouvé une histoire assez incroyable. Puisque c'est au Japon, en fait, il y a un procès qui oppose un conducteur de train et sa société ferroviaire pour une prise de poste 2 minutes après l'horaire prévu. Donc, en France, déjà, plus personne ne travaillerait. Le monsieur est arrivé 2 minutes en retard. Et donc, il s'excuse. L'employeur estime, en fait, que les 2 minutes avant le transfert, il n'y a pas eu d'activité. Et donc, que ces 2 minutes-là ne doivent pas être payées, tout simplement. C'est-à-dire qu'au Japon, si vous n'êtes pas là 30 secondes, on vous défalque. En fait, de ces 30 secondes, c'est extraordinaire. Et donc, lui est parti en procès, enfin, etc. Il parle de dédommagement pour le préjudice psychologique, parce qu'il estime que son honneur a été bafoué, puisqu'on lui a fait remarquer qu'il était en retard de 2 minutes.
Ah.
Vous voyez ? Et donc, lui, il perd son honneur de travailleur. Mais vous imaginez en France, non, si Sudrail débarquait comme ça et disait, bon, écoutez, maintenant, là... Non, mais c'est marrant la différence dans les milieux du travail qu'il peut y avoir entre deux pays. Et les Japonais, c'est vrai que 2 minutes, on va leur reprocher d'avoir un retard de 2 minutes. Et j'avais vu une fois qu'il y avait un train comme ça au Japon qui était arrivé 1 minute en retard, et la compagnie nationale s'était excusée en disant, c'est inqualifiable, on ne sait pas ce qui s'est passé, 1 minute de retard, on se fouette, on est méchant. Et non, mais c'est drôle quand même.
Mais le rapport au temps.
Voilà, le rapport au temps. Les Japonais sont vraiment très, et surtout, ils ont vraiment ce rapport aussi à l'honneur, quoi. Il faut pas, dans son travail, on doit être bon et on ne doit pas être déshonoré, par son employeur qui dit qu'on n'a rien fait alors qu'en fait on n'y pouvait rien. Je crois que ce pauvre monsieur, il était en retard parce que ceci ou cela, ouais, quoi.
Eh bien, Pastèque, c'est déjà fini, Tanguy Pastureau. Je suis désolé de vous le dire.
Ça m'attriste.
Oui, c'est comme ça. Mais nous revenons la semaine prochaine. Il y aura d'autres actualités.
Mais hein, qu'est-ce que je vais faire, moi, entre les deux?
Eh bien, écoutez, vous allez réécouter les podcasts. Et dès jeudi, on se retrouve, évidemment, sur la chaîne Twitch de France Inter. La semaine prochaine, sur ces antennes. Merci à vous, Tanguy Pastureau.
Merci
à vous, Lulu.
Mais merci à vous deux.
Hugo Combes à la préparation. Fred Milano à la réalisation. Thierry Dupin aux choix musicaux. Et toutes les équipes d'Inter derrière la console et derrière les vidéos. Merci à vous et à la semaine prochaine dans Pastèque.